VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour et bienvenue, il est 7h en temps universel. Jacques Aristide en direct de la capitale américaine pour vous présenter le monde aujourd'hui à la une de l'actualité en ce mardi 29 août 2023. Au Gabon, des partis d'opposition demandent à nouveau au chef de l'État de concéder la défaite, alors que le pays attend toujours les résultats officiels de la présidentielle. Le président français Emmanuel Macron se dit inflexible sur sa politique de fermeté au Niger, un des derniers partenaires de Paris au Sahel, après la rupture avec le Mali et le Burkina. Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump décrit la date de son procès en mars prochain à Washington comme une ingérence électorale. Au Gabon, le camp d'Albert Ondo-Ossa, principal rival du président Ali Bongo Ondimba à l'élection de samedi, a de nouveau déclaré hier avoir gagné en l'absence de résultats officiels. Il a également appelé le chef de l'État à organiser la passation du pouvoir. Les détails avec Didi Diko.
Albert Ondo-Ossa, derrière lequel les principaux partis d'opposition se sont rangés, a demandé à être déclaré vainqueur. Nous appelons nos compatriotes qui gravitent autour de ce pouvoir dépourvu de légitimité, particulièrement ceux autour de M. Ali Bongo Ondimba, à s'incliner humblement devant la volonté du peuple gabonais, a déclaré Mike Joktan, directeur de campagne de M. Ondo-Ossa. Il ajoute que ce qui est attendu de M. Ali Bongo Ondimba, c'est qu'il accepte le choix du peuple gabonais et qu'il organise, sans effusion de sang, la passation du pouvoir en faveur du professeur Albert Ondo-Ossa. Le Centre gabonais des élections, seul habilité à proclamer les résultats, a refusé de donner des indications sur l'état d'avancement du dépouillement et la date pour la proclamation. Le gouvernement a suspendu l'accès à Internet dans tout le pays et décrété un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre en invoquant des risques de violence. L'armée et la police ont installé des barrages dans toute la capitale pour faire respecter le couvre-feu nocturne.
Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a âprement défendu hier l'intransigeance de Paris vis-à-vis des militaires au pouvoir au Niger. Le point avec Alexandrine Ollognon.
Si la France n'était pas intervenue avec Serval et Barkhane, nous ne parlerions aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger, a déclaré Emmanuel Macron hier devant les ambassadeurs français réunis à Paris pour leur conférence annuelle. Vendredi soir, les militaires nigériens ont donné 48 heures à l'ambassadeur français Sylvain Ité pour quitter le pays, ce que Paris a refusé, arguant que ce gouvernement illégitime n'a aucune autorité pour formuler une telle requête. D'ailleurs, Emmanuel Macron a salué le travail de l'ambassadeur Ité et fait savoir qu'il est toujours à Niamey. En revanche, Paris a suspendu son aide au développement et sa coopération militaire, sans pour autant dénoncer les accords de défense avec le Niger comme réclamé par les militaires à Niamey.
On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CDAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse, parce que sinon on n'est plus nulle part.
Au Mali et au Burkina Faso où ont eu lieu des coups d'État successifs, la France a dû se résoudre l'an dernier à retirer ses troupes et n'y a plus d'ambassadeurs. Mais quelques 1500 soldats français sont toujours sur le sol nigérien. Cette semaine encore, des manifestations pourraient se dérouler à Niamey devant la base où sont stationnées les troupes françaises pour réclamer leur départ.
Au Mali, la junte a appelé hier les groupes armés du Nord, signataires d'un accord de paix mal en point, à renouer le dialogue avec elle, alors que la crainte d'une reprise des hostilités grandit dans le sillage du retrait de la mission de l'ONU. Au même moment, le porte-parole d'une organisation réunissant ces groupes a accusé des avions de l'armée malienne d'avoir bombardé des positions de la coordination des mouvements de l'Azawad, une alliance à dominante Touareg, signataire de l'accord dans la région de Kidal, sans faire de dégâts. En Égypte, le Courant Libre, une coalition de partis d'opposition libérale, critique la détention qualifiée de politique de Hicham Kassem, l'un de ses dirigeants, poursuivi pour diffamation par un ancien ministre et pour outrage à des policiers. Le Courant Libre dit se réserver le droit à une escalade et ses cadres ont évoqué la possibilité, si Hicham Kassem était maintenu en détention, de geler leurs activités et de boycotter la présidentielle de 2024 ou le dialogue national entamé en grande pompe il y a plusieurs mois. En Libye, après l'avoir suspendu dimanche, le chef du gouvernement basé à Tripoli a fini par limoger sa chef de la diplomatie pour avoir rencontré récemment son homologue israélien en Italie, une entrevue interdite par les lois libyennes. Depuis l'ambassade palestinienne à Tripoli hier, le premier ministre Abdelhamid Debeiba a fait état du limogeage de Najla al-Mangouche pour avoir eu un entretien la semaine dernière à Rome avec Eli Cohen, le ministre israélien des Affaires étrangères.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chine a évoqué avec les États-Unis ses vives préoccupations liées aux restrictions commerciales qui visent des entreprises chinoises, rapporte ce mardi un média d'État au moment où Gina Raimondo, la secrétaire américaine au commerce, se trouve à Pékin. Davantage avec Michel Joseph.
Lors d'un entretien avec Madame Raimondo, son homologue chinois Wang Wentao a fait part de ses vives préoccupations concernant les surtaxes douanières des États-Unis, leur politique en matière de semi-conducteurs, les restrictions aux investissements bilatéraux, les subventions discriminatoires et les sanctions à l'encontre des entreprises chinoises, a rapporté l'agence de presse Chine Nouvelle. Les mesures unilatérales et protectionnistes vont à l'encontre des règles du marché et du principe de concurrence loyale, a souligné le ministre chinois du Commerce. Cela ne fera que nuire à la sécurité et à la stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales, a-t-il insisté. Lors d'un entretien avec Wang Wentao hier, Gina Raimondo a jugé que les relations économiques entre les deux pays étaient les plus importantes au monde. Il s'agit d'une relation compliquée, une relation difficile, a-t-elle toutefois souligné. Nous serons bien sûr en désaccord sur certaines questions, mais je pense que nous pouvons aller de l'avant si nous sommes directs, ouverts et pragmatiques, a estimé Madame Raimondo.
L'ancien président américain Donald Trump sera jugé à partir du 4 mars 2024 par un tribunal fédéral ici à Washington pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection de 2020 en pleine campagne pour reprendre la Maison Blanche. Le point avec Rosine Munezero.
La juge Tania Chutkan a tranché lundi sur cette date lors d'une audience consacrée aux propositions des deux parties. Le procureur spécial Jack Smith souhaitait que le procès à Washington débute le 2 janvier 2024, tandis que la défense réclamait une échéance lointaine. Il s'agira du premier procès au pénal pour Donald Trump, qui doit aussi être jugé à partir de fin mars 2024 dans l'État de New York pour des paiements suspects à une ancienne actrice de films porno en mai 2024 par un tribunal de Floride pour sa gestion de documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. La date de son procès dans une quatrième affaire, celle de pression électorale en Géorgie en 2020, inculpation qui lui a valu la semaine dernière sa prise de photo d'identité judiciaire, n'a pas encore été fixée. Pour Whit Harris, un consultant politique républicain, un acquittement de Trump à son premier procès à venir, quel qu'il soit, contribuerait à rendre irréversible son avance dans les primaires républicaines.
Et Donald Trump a fustigé hier la date fixée par la juge Tania Chutkan, qualifiant la décision d'ingérence électorale dans la présidentielle de 2024. L'ancien président, candidat aux primaires républicaines, a accusé la juge de détester Trump. Il a également indiqué qu'il introduirait un recours pour modifier cette date. Les forces russes affirment ce mardi avoir déjoué de nouvelles attaques nocturnes de drones ukrainiens dans les régions de Toula et Belgorod. Le ministère russe de la Défense n'a pas communiqué d'informations quant à d'éventuels blessés ou dégâts. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était félicité fin juillet que la guerre arrive sur le territoire de la Russie.
Le tribunal suprême électoral du Guatemala a suspendu hier, à la demande d'un juge, le parti Semilla du président élu Bernardo Arevalo, qui doit prendre ses fonctions le 14 janvier, après que l'instance a également officialisé la victoire du social-démocrate. Le président élu qualifie d'illégal cette suspension temporaire de son parti. Après le premier tour de la présidentielle le 25 juin, le juge Freddy Orellana avait ordonné, sur demande du procureur Rafael Curuchiche, à ce tribunal de suspendre Semilla et d'enquêter sur des anomalies présumées concernant l'enregistrement de membres lors de sa formation en 2017. Les États-Unis considèrent messieurs Orellana et Curuchiche corrompus. Voilà pour le journal. Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques, la Minute Éco avec Alexandrine Ollonio.
Le Nigeria cherche à encourager les investissements plutôt que de compter sur l'emprunt pour créer des emplois. C'est une déclaration du ministre des Finances, Olawale Edun, alors que le nouveau gouvernement tente de trouver une solution à la croissance anémique, à l'inflation à deux chiffres et au fardeau de la dette. L'économie nigériane a été mise à mal par la faiblesse des prix du pétrole et par la pandémie du virus COVID-19 qui a provoqué deux récessions successives en 2016 et en 2020. Et parlant du Nigeria, la croissance de l'économie s'est limitée à 2,51% en glissement annuel au deuxième trimestre de cette année contre 3,4% durant la même période de 2022. Selon le Bureau national des statistiques, l'agriculture a progressé de 1,50% alors que l'industrie s'est contractée de 1,94%. Le Premier ministre indien Narendra Modi a demandé dimanche que l'Union africaine devienne membre du G20, le club des pays les plus riches du monde, qui doit se réunir en Inde en septembre. En décembre dernier, le président américain Joe Biden avait déjà émis le souhait que l'UA rejoigne le G20 en tant que membre permanent, assurant que cela allait se faire. Seul un pays africain, l'Afrique du Sud, est actuellement membre du G20 qui rassemble 19 des plus importantes économies mondiales.
Et maintenant, résumé de l'actualité sportive. Bonjour Yacouba Ouidraougo.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
L'Angola et l'Égypte sur la brèche ce mardi à la Coupe du Monde de basketball.
Oui, après avoir signé dimanche la première victoire africaine dans ce mondial de basket en battant les Philippines 80 à 70, l'Angola défie la République dominicaine pour sa troisième sortie dans cette compétition. L'Égypte, qui s'est inclinée lors de ses deux premières rencontres, veut sauver l'honneur face au Mexique. Impressionnant lors de leur premier match perdu contre Porto Rico, le Soudan du Sud a battu hier la Chine 89 à 69. Les Sud-Soudanais restent troisième de leur poule B derrière Porto Rico et la Serbie et devront tout donner contre les Serbes demain pour espérer voir le tour suivant. Victoire également pour le Cap-Vert 81 à 75 devant le Venezuela. Les Cap-Verdiens sont aussi troisième de leur poule et affronteront la Slovénie ce mercredi lors de leur dernier match de groupe. La Côte d'Ivoire a disposé de l'Iran 71 à 69. Les Ivoiriens sont troisièmes de la poule G avant leur dernière rencontre de groupe contre le Brésil demain mercredi. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour suivant et l'équipe africaine la mieux classée dans cette Coupe du Monde de basket arrachera son ticket pour les Jeux Olympiques de l'an prochain à Paris.
L'Espagne et les États-Unis sont qualifiés pour le tour suivant.
La tenante du titre, l'Espagne et les États-Unis se sont qualifiés pour le deuxième tour après leur succès respectivement contre le Brésil 96 à 78 et la Grèce 109 à 81. Ces deux candidats à la victoire finale rejoignent la Lituanie, le Monténégro, l'Allemagne, la Lettonie et le Canada. Ils sont même assurés de la première place de leur poule. Les Grecs joueront leur qualification mercredi dans un match à quitte ou double contre la Nouvelle-Zélande, poussée en prolongation par la Jordanie.
Football, libéré par Lyon, Youssouf Koné file en Belgique.
Le club français a annoncé avoir trouvé un accord pour résilier le contrat de son défenseur latéral malien. Youssouf Koné va s'engager avec Molenbeek en première division belge, club de la Galaxy Eagle Football, comme l'OL. Molenbeek est entraîné actuellement par le Brésilien Claudio Cassapa, ancien capitaine et entraîneur adjoint de l'OL. Koné, 28 ans, avait été transféré de Lille vers l'Olympique lyonnais à l'été 2019 pour 9 millions d'euros et un contrat de 5 ans qui arrivait à terme le 30 juin 2024. Avec Lyon, il n'a disputé que 15 rencontres, dont 11 en Ligue 1.
Merci bien, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, un programme que vous propose VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Il est l'heure maintenant de vous proposer notre Transmagazine. Le président français Emmanuel Macron a défendu hier l'intransigeance de son pays vis-à-vis des militaires au pouvoir au Niger après leur coup d'État du 26 juillet dernier. Vendredi, la junte nigérienne a donné 48 heures à l'ambassadeur français Sylvain Itté pour quitter le pays. Ce que Paris a refusé, soutenant que le gouvernement nommé par les putschistes est illégitime et n'a aucune autorité pour formuler une telle requête. Emmanuel Macron a salué le travail de l'ambassadeur Itté et fait savoir qu'il est toujours à Niamey. Pour nous décrypter cette actualité, Yacouba Ouédraogo a joint ici à Washington DC Omar Haruna, ancien ambassadeur du Bénin dans la capitale fédérale américaine.
Moi, je crois que cette posture de la France est symptomatique même de la crise entre la France et les populations africaines et les États africains du Sahel, qui voient la France comme une puissance dominatrice avec des velléités néocoloniales. Donc, dans ce contexte, moi, je crois que la diplomatie et les règles diplomatiques sont claires. Il y a certaines règles qui se basent essentiellement sur le respect des nations, des États, de leurs intégrités. Il y a celles qui se basent sur la réciprocité. Et je trouve que la posture de la France, dans ce contexte, renforce la perception négative qu'elle s'est créée depuis certaines années dans la région. Bon, les conséquences de ça dépendra essentiellement de la réponse que les Nigériens ou bien le gouvernement actuel au Niger va faire.
Est-ce que les militaires au pouvoir à Niamey disposent de moyens, de contraintes pour amener l'ambassadeur à quitter le territoire nigérien sur le plan diplomatique?
De manière de contrainte, non, parce que il faut dire que l'ambassade de la France au Niger est un territoire souverain. Et comme toute autre ambassade. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas entrer dans l'ambassade parce que ça sera une violation d'un territoire souverain. Mais par contre, moi, je crois qu'il est de l'intérêt des Français de retirer leur ambassadeur pour le moment, peut-être garder un chargé d'affaires et essayer de revoir l'approche avec les Nigériens. Ce qui est sûr, c'est une façon de dire qu'on ne reconnaît pas ces autorités. Donc, ça sous-entend que, bon, ils sont toujours dans la posture qui était leur première posture au lendemain du coup de push.
On sait qu'au Burkina Faso et au Mali, les militaires au pouvoir avaient demandé que les différents ambassadeurs français dans ces pays-là quittent et ces ambassadeurs sont partis. Pourquoi au Niger, ça coince?
Non, mais il faut dire qu'au Mali et au Burkina Faso, ils n'ont pas eu cette expérience. Je suis sûr que ces deux expériences au Mali et au Burkina Faso les ont édifiées sur les coûts. Et quand je parle de coûts, je ne parle pas seulement des coûts financiers, mais je parle de coûts au niveau de la perception, de la réputation et de la grandeur de la France. Ils ont eu le temps peut-être d'analyser ce facteur et ils se disent qu'ils ont pris des coups assez énormes dans ces retraits-là et que le faire au Niger, ça va renforcer leur faiblesse. Donc, ils ont plus, comme on dit, de donner parce que ça fait la deuxième fois qu'ils se sont retirés d'un pays africain. Donc, ils savent exactement les conséquences pour la France. C'est un peu ça, mais aussi, c'est pour notifier au reste du monde que ici, c'est notre dernier roi. On ne va pas abdiquer. C'est la même posture d'une manière ou d'une autre que certains États de la CEDEAO sont en train de prendre. C'est pour montrer que ça, il y a une ligne rouge à ne pas dépasser, alors que moi, je trouve que c'est une erreur.
On écoutait Omar Haruna, ancien ambassadeur du Bénin à Washington.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Tchad, plusieurs partis d'opposition entendent se battre pour empêcher la tenue du processus référendaire en cours. Pour ces acteurs politiques, tenir un référendum autour du seul projet de constitution est une manière de demander au peuple tchadien de valider la continuité du régime actuel dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno, arrivé au pouvoir en avril 2021 après la mort de son père, Idriss Déby Itno. Le chef de l'État avait promis une transition politique dans un délai qui a depuis été étendu. Une autre plateforme de partis politiques favorable à la transition est d'avis que ceux qui sont contre ce projet sont minoritaires. De Djamena, le reportage de notre correspondant André Kodmajingar.
Badon Odaigo est le président du parti Union des écologistes tchadiens Les Verts, membre de la plateforme républicaine de concertation des acteurs politiques. Il affirme que son organisation compte sur la détermination du peuple tchadien pour empêcher la poursuite de ce processus.
Toute transition devrait être d'abord désintéressée. Nous avons constaté que ceux qui dirigent cette transition ne sont pas impartiaux. Donc ils ont un agenda, certainement, la dévolution dynastique. Donc il faut faire un barrage et de façon énergique. On préfère mieux qu'on prolonge la transition que d'avoir une transition boiteuse.
Max Kamkoui, un autre membre de la plateforme hostile à cette transition, dévoile les actions à mener dans les jours à venir pour bloquer la tenue de ce référendum qui ne prend pas en compte, selon lui, l'aspiration du peuple tchadien.
Un plan d'action singulier assorti d'actions musclées de 120 jours d'activisme citoyen est élaboré pour être exécuté. Et 220 comités d'action stratégique et de mobilisation active de masse seront créés dans 19 provinces et 91 départements clés. L'heure n'est plus au combat solitaire de calcul de partage du pouvoir. La priorité, c'est la restauration de la République, la démocratie et du respect des droits et libertés de chaque citoyenne et citoyen tchadien de vivre libre et en toute dignité. Et le passage pour y arriver, c'est d'arrêter le processus inique en cours pour lequel chaque citoyen tchadien épris de justice et d'égalité est appelé à y adhérer.
Un autre groupe des acteurs politiques surgit et apporte tout son soutien aux autorités de transition et au processus référendaire en cours. Dr André Bondo Kaikula fait partie de cette plateforme.
Notre organisation est une plateforme des partis politiques qui soutiennent farouchement la transition. Parce que nous avons estimé que le Tchad a trop souffert et nous avons beaucoup attendu. Et donc nous allons continuer sur cette lancée pour que le processus puisse aboutir.
D'ailleurs, les acteurs de cette transition sillonnent déjà les différentes provinces pour sensibiliser les populations, informe à VOA Afrique, Dr André Bondo Kaikula.
Nous avons déjà dépêché un groupe de 7 volontaires qui sont déjà sur le terrain, qui sont en train de travailler dans le cadre de soutien du processus. Nous sommes très nombreux. Nous avons commencé avec 50 partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes à 62 partis politiques. C'est ça la démocratie. Ils vont exprimer leur voix. Nous aussi, nous allons exprimer notre voix et la majorité remportera.
15 organisations de la société civile craignent le pire à l'avenir et demandent à la communauté internationale de ne pas financer le processus en cours. Maître Delphine Kenelum Diraibé fait partie de cette organisation.
Les Nations Unies doivent inscrire la question tchadienne en priorité dans leur agenda afin de soutenir une démarche porteuse de paix et ne pas attendre le chaos ou un autre coup de force pour toujours réagir au détriment des populations.
Après la zone sud, les agents recrutés par la commission chargée de la révision des listes électorales pour l'organisation de ce référendum seront déployés à partir de ce lundi dans 16 provinces du nord concernées par cette opération. André Kordoma Djingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Bénin, un groupement de professionnels et de familles qui s'intéressent aux troubles de l'enfance tente, tant bien que mal, de déconstruire les mythes et les préjugés qui entourent les enfants autistes et trisomiques. La tâche n'est pas facile, mais les résultats obtenus en peu de temps augurent des lendemains meilleurs pour les parents, de même que pour les enfants souffrant de ces troubles. Ginette Fleur Adandé, notre correspondante à Cotonou, s'est penchée sur le sujet et nous a envoyé ce reportage. Écoutons.
Nous sommes ici à la Chrysalide, un centre qui s'occupe de l'intégration des personnes souffrant de déficience mentale, surtout les enfants atteints d'autisme et de trisomie au Bénin. Claudine Daizo est psychologue et directrice de Chrysalide. Elle se bat pour que les droits de ses enfants soient respectés.
C'est un trouble envahissant du développement. Toute la croissance est atteinte, mais on ne trouvera jamais deux autistes pareils. Donc c'est une affection qui est vraiment très difficile à décrire.
Lorsque vous sentez que votre enfant est rejeté quelque part, montrez-lui l'amour, montrez-lui juste que vous êtes fier de lui. Sortez avec vos enfants. Sortez, ne les cachez pas dans les arrière-cours, ça ne sert à rien.
Malgré l'investissement de nombreux professionnels pour faire connaître l'autisme, les enfants qui en souffrent continuent d'être marginalisés ou simplement éliminés dans certaines régions. Un enfant atypique qui ne parle pas est très tôt pris pour un sorcier dans certaines sociétés. Claudine Daizo implore l'indulgence des parents et surtout de la société.
Comme on estime qu'ils ne sont pas à leur place, on les faisait repartir, entre guillemets, on pouvait déposer sur une termitière ou de l'eau. dans l'eau, le Liban, on les aide à repartir dans leur pays ou là où elles devraient être. Alors fort heureusement, ça a beaucoup diminué, mais ça existe sous d'autres formes. Hein.
Ces conseils donnés lors d'une journée d'information sur l'autisme et la trisomie restent une aubaine pour les parents en détresse, ne sachant quoi faire devant les comportements particuliers de leurs enfants. Quelques-uns parlent de leurs difficultés.
Ça a été une longue histoire. Je n'ai pas tout de suite appris qu'il était autiste. Mon fils, il a eu du mal à s'asseoir, il a eu du mal à marcher. Et je ne savais pas trop ce qu'il avait. Mon fils, il ne parle pas. Mon fils, il n'est jamais allé à l'école parce que aucune école n'a pu l'accepter jusqu'à aujourd'hui, à part la chrysalide.
Et pour les autistes, tout s'arrange. Pour ceux souffrant de la trisomie 21, le chemin paraît encore plus long, même si des efforts sont faits. Considérés à tort comme des enfants sorciers ou la réincarnation de certaines divinités, certains craignent toujours d'être les parents d'enfants trisomiques. Camille Epoing a un enfant de 6 mois diagnostiqué trisomique. Il raconte sa douleur.
On vous dit que votre enfant est trisomique. Sincèrement, moi, j'ai failli chiffrer la pédiatre. Durant toutes les échographies qu'il y a eu, on n'a jamais été informé de quoi que ce soit, de quelque anomalie que ce soit. Et maintenant, à la naissance, subitement, on nous balance cette information. Je suis même allé même jusqu'à même consulter l'oracle. On m'annonce que oui, telle divinité qui s'est réincarnée en enfant, pourquoi la divinité ne peut pas choisir une autre personne?
Monsieur Camille a dépensé beaucoup, espérant renverser spirituellement une situation purement scientifique. Yves Ezinokwiti est un animateur chargé de sport et de la santé à la crise.
Nous accueillons les enfants du mardi au vendredi. Déjà à 9h30, ils prennent leur petit déjeuner. À 10h, les activités commencent par la pratique. La pratique, c'est pour travailler la motricité des enfants. Nous les accompagnons dans le domaine de l'autonomisation.
En plus de la chrysalide, il y a également autisme bénin, né du constat que les troubles du spectre autistique sont encore peu connus au niveau local. Elle entend œuvrer pour éliminer les mythes socioculturels qui entoure encore ce genre d'affection et qui contraignent les parents à garder leurs enfants à la maison, voire à les cacher. Du Cotonou, Ginette Fleur Adané pour VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, dans la course à la Maison-Blanche en 2024, l'éligibilité de l'ancien président Donald Trump est à nouveau remise en question. Malgré tout, Donald Trump demeure largement en tête des sondages des primaires républicaines en vue de la présidentielle de novembre à l'année prochaine. Véronica Balderas Iglesias de la VOA fait le point. Le récit est de Lionel Gaïma.
L'ancien président Donald Trump s'est rendu dans une prison d'Atlanta en Géorgie et c'était à la une des journaux du monde entier. Ainsi, ses ambitions politiques sont à nouveau examinées à la loupe. Monsieur Trump fait l'objet de 91 accusations criminelles réparties sur 4 inculpations. Parmi ses concurrents à l'investiture républicaine, l'ancien gouverneur de New Jersey, Chris Christie, interviewé dans l'émission This Week sur ABC, a laissé entendre que Trump est un handicap pour son parti.
La majorité de mes concurrents pensent que l'on peut avoir un criminel condamné comme candidat à la présidence, qu'ils soutiennent cela et qu'ils pourraient gagner. Je pense que c'est impossible.
Le candidat républicain Vivek Ramaswamy, qui a participé la semaine dernière au premier débat de son parti aux côtés de Chris Christie, a reconnu les réalisations de M. Trump lors d'une interview à l'émission Meet the Press sur la chaîne NBC.
Je veux construire sur les fondations que Trump a posées. Franchement, je l'inviterai en tant que conseiller et mentor. Je ne peux pas apprendre les mêmes choses. Je veux reprendre là où il s'est arrêté.
Qu'en est-il dans le camp démocrate? Les problèmes juridiques de Donald Trump ne feront pas partie de la stratégie de campagne du président Joe Biden pour sa réélection en 2024, a déclaré à la chaîne ABC Cédric Richmond, co-président de la campagne de Biden.
What I will say about President Biden.
Mais ce que je dirais à propos du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris, c'est qu'ils se sont toujours concentrés sur le peuple américain. Ils vont donc continuer à faire leur travail de réduction de l'inflation, d'augmentation des salaires et de reconstruction de la classe moyenne.
Alors que l'âge du président Biden continue d'inquiéter les électeurs démocrates, le sénateur indépendant Bernie Sanders, qui a participé à l'émission de NBC, a suggéré de se concentrer plutôt sur les enjeux politiques.
Et voilà, Le Monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Kevin Fowler a assuré la partie technique. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente journée de mardi. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.